Marie-Christina Collot, bonjour et merci d'accorder cette interview à ONU Info. Vous êtes une activiste climatique, écoféministe et entrepreneur sociale. Vous êtes de Madagascar et donc aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la terre nourricière et je pense que vous avez rencontré, enfin disons par vidéoconférence, le secrétaire général de l'ONU. Donc peut-être on peut revenir sur cette rencontre. Quel a été justement votre message au secrétaire général de l'ONU?
Alors c'est une rencontre cette fois-ci virtuelle. J'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer physiquement à la COP25 j'ai eu cette chance de l'interviewer et de vraiment mettre l'accent sur les pays en développement comme Madagascar, des pays qui sont oubliés des négociations internationales, dont on n'entend pas souvent la réalité, alors qu'on fait partie de ces pays les plus impactés par le changement climatique aujourd'hui. Et donc, le but de notre conversation, c'était un peu une suite de ce dont on avait discuté déjà à la COP25. C'était un peu faire un état de qu'est-ce qui avait changé depuis. Et bien sûr, ce qui a changé depuis, c'est la COVID-19 qui a chamboulé énormément de choses, qui nous apprend aussi des choses par rapport à comment agir face à une crise mondiale. Il faut agir de manière solidaire. Et dans cet entretien que j'ai eu la chance de faire avec lui, mon message, il a été avant tout d'être optimiste. Je sais que dans le contexte actuel, c'est très difficile d'être optimiste, de se dire qu'on va s'en sortir. Mais pour moi, il était important en fait de déjà tirer des leçons de cette pandémie actuelle, de voir déjà de quelle manière les politiques d'adaptation et la résilience pour les pays en développement comme Madagascar peuvent être toujours soutenues malgré le contexte actuel. Si on prend l'exemple du secteur de la santé dans lequel investissent beaucoup la communauté internationale en ce moment pour réagir face à la crise, le secteur de la santé est un des secteurs clés aussi en termes de politique d'adaptation au changement climatique, mais pas seulement. Donc, j'ai discuté avec le secrétaire général d'autres aspects qui devraient être aujourd'hui considérés en plus de la santé. On voit aujourd'hui toute la problématique de la sécurité alimentaire, le fait que l'on doit aujourd'hui être autonome, qu'on doit investir dans des agricultures climato-résilientes aussi. Et par rapport à des pays comme Madagascar où l'accès à l'eau est très difficile pour plus de 75% de la population, comment on peut dire à une population de se laver régulièrement les mains face au virus quand celle-ci est face à des pénuries d'eau et que l'un des impacts du changement climatique, c'est qu'il n'y a justement pas assez d'eau, que les précipitations diminuent et donc se laver les mains, ce geste barrière qui semble si simple à beaucoup, est en fait un enjeu crucial pour des millions de personnes. Donc, c'est plein de parallèles que j'ai essayé de mettre en avant à l'occasion, essayer de montrer justement que la jeunesse, aujourd'hui, elle essaie de trouver des solutions pour que ce monde actuel qui nous semble si pessimiste, eh ben, il soit au contraire un monde où on puisse réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour la suite, quel type d'opportunités on veut avoir, comment les Nations Unies peuvent encourager ce monde après Covid et comment la jeunesse et les femmes peuvent être intégrées dedans. Donc, c'est un peu toutes les questions qui m'ont touchée personnellement, qui touchent aussi bon nombre d'acteurs à Madagascar que j'ai essayé de mettre en avant et il a été exceptionnel, très attentif, à l'écoute. J'ai adoré quand sur la fin il nous a dit bon je vais aller rencontrer les leaders de ce monde, quel message vous voulez que je leur donne? Et donc là ben, j'ai dit ok, bon là c'est une opportunité, s'il peut partager notre message c'est juste excellent.
Et donc vous étiez aussi avec la brésilienne, n'est-ce pas? Donc c'était ça, toutes oui. Les deux. Vous l'aviez exactement. Déjà rencontrée avant?
Non, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Paloma. Donc c'était la première fois. On a pu se préparer juste avant pour l'entretien. Donc on a eu l'occasion vraiment de d'échanger. Et puis à l'occasion de l'entretien, c'était aussi une excellente opportunité en fait de comparer un peu les contextes. Le Brésil, qui est un pays immense, avec la forêt amazonienne qui est en danger aujourd'hui, Madagascar. Madagascar, qui a été champion du monde de la déforestation également en 2017, qui est aussi connu pour être un pays de méga biodiversité. Évidemment, le secrétaire général n'a pas manqué de soulever ça et de nous poser cette question par rapport à la protection de la biodiversité aujourd'hui, en cette période. Comment on peut malgré tout mobiliser, ce qui n'est pas du tout évident. Et donc, à cette occasion-là, on a pu échanger un peu nos combats et comment aujourd'hui on voulait faire participer les jeunes pour apporter des solutions.
Et je pense que vous mettez en avant l'aspect genre, l'inclusion de genre dans les politiques et projets de changement climatique. Pourquoi c'est si important justement ?
C'est très important de considérer cet angle du genre. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de statistiques, lorsqu'il y a des inondations, des cyclones qui sont de plus en plus fréquents comme dans mon pays, les femmes sont les premières impactées. Elles sont les premières impactées parce que très souvent, on ne leur apprend pas à nager. Donc, en cas d'inondation, elles sont les premières à se noyer. Les femmes sont également dans les situations de sécheresse. C'est elles qui vont marcher loin pour récupérer de l'eau. C'est dans la culture, c'est des normes dans la société que la femme s'occupe un peu du foyer. Mais une fois rentrée chez elle, on est dans un système qui est patriarcal où à ce moment-là, l'eau qu'elle a pris du temps à aller chercher, à l'épuiser, elle n'aura pas vraiment le droit d'y boire. Elle n'aura même pas la priorité pour ça. Pour son hygiène menstruelle, elle devra utiliser du sable à la place. Et là, je parle d'exemples concrets qui ont lieu en ce moment même dans le sud de Madagascar. Je parle de l'exemple malgache, mais au niveau mondial, c'est vraiment important de se rendre compte que les femmes ne font pas du tout partie, en fait, enfin très peu partie des prises de décision. Au niveau des délégations internationales, lors des négociations, elles ne sont pas suffisamment présentes, elles ne sont pas suffisamment entendues. Comment on peut vraiment mener des politiques efficaces quand seulement 4% des financements climat aujourd'hui dans le monde sont spécifiquement dédiés à cet aspect genre? Et donc, dans le discours aussi que j'ai pu avoir avec le secrétaire général, c'est vraiment de considérer dans les politiques et dans les financements qui appuient les politiques d'adaptation pour les pays les plus fragiles aux impacts du changement climatique, comment il est important aujourd'hui de considérer ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de participer au Forum Génération et Égalité qui fait le bilan des 25 ans de Beijing, de la conférence de Beijing. Et à Madagascar, nous avons eu cette particularité de créer une version locale du Forum Génération Égalité où je suis aujourd'hui le lead de cette plateforme et où on entend bien mettre en avant le rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Elles ne sont pas uniquement des victimes, elles sont des actrices de changement qui doivent prendre part pleinement au processus de décision, tout comme la jeunesse. Et puis, je rajouterai également une autre campagne qui me tient réellement à cœur. J'ai aujourd'hui la chance de travailler auprès de Civicus, qui est une plateforme qui rassemble plus de 10 000 organisations et activistes dans le monde. On est aujourd'hui conscient que la COVID est en train de changer les choses pour les activistes, pour ces mouvements de base. Et on est en pleine campagne pour que ces politiques de financement aujourd'hui, elles puissent être mieux adaptées, plus flexibles pour toucher les personnes qui sont vraiment sur le terrain. Et donc, c'est énormément de combats qui ont lieu en ce moment et l'occasion en tout cas de montrer pour cette journée internationale de la terre nourricière que la jeunesse se bouge, qu'au niveau de ces communautés de base, de ces activistes, membres de Civicus et non membres, tout le monde essaye de changer la donne aujourd'hui. Il y a une forme de résilience qui est assez forte. C'est pour ça que je reste optimiste. Je me dis qu'on ne peut pas se laisser abattre du tout. On doit au contraire faire preuve encore plus de créativité, de force, d'énergie pour y arriver. Et cette énergie, elle est là. Elle est là.
Et peut-être une question un peu plus personnelle, comment devient-on justement une activiste? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir activiste?
Cet activisme, c'est quelque chose qui s'est fait par la force des choses. J'ai eu l'occasion d'étudier à l'étranger et puis aussi de voir différents pays, de connaître différents contextes. J'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Inde avant de revenir à Madagascar. Ça m'a permis d'avoir un recul sur mon pays que je n'avais pas avant. Et à cette époque, j'ai travaillé justement en tant que volontaire des Nations Unies. J'ai été affectée dans cette région qui est impactée par cette sécheresse. Et j'ai vu ce que c'était. J'ai vu des personnes essayer de vendre leurs marmites ou des cuillères en échange d'un gobelet d'eau. J'ai vu des réalités qui me semblaient extrêmes et qui m'ont fait me rendre compte qu'on ne pouvait pas ne pas donner une voix à ces personnes sous prétexte qu'elles sont dans une région qui est la plus enclavée du pays, sous prétexte que mon pays ne fait pas partie de ces pays dont on entend souvent parler dans les médias à l'international. Il fallait que je fasse quelque chose et je suis heureuse aujourd'hui de me dire que je ne suis pas la seule. C'est vraiment toute une génération de jeunes qui se lèvent, qui ont envie de ne plus se taire, parce qu'il est vrai que je vis dans une culture où quand on est jeune, on nous dit « tu n'as pas assez d'expérience, ne t'exprime pas trop, encore plus quand tu es une femme, donc tu n'es pas censée être aussi dynamique et expressive
Voilà.
». Mais voilà, on change la donne, on change les préjugés, et puis voilà, c'est toute une génération qui se lève et je suis consciente aujourd'hui que tout est possible.
Donc, peut-être une dernière question. Donc, quel serait votre message en cette journée et justement pour tous les jeunes pour se mobiliser pour la Terre et pour leur futur?
Mon message pour cette journée, ce sera un message en tant qu'entrepreneur social et verte. Pourquoi c'est cette casquette que je vais porter? C'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur le continent africain que je connais mieux, le taux de chômage devient plus important chez les jeunes. De nombreux jeunes diplômés ont des difficultés à trouver du travail. Et on se dit souvent, bon, l'Europe, l'Occident, c'est l'Eldorado. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis une repatriée. J'ai choisi de rentrer parce que je suis convaincue que dans nos pays, on a énormément d'opportunités et que surtout, ces opportunités, elles sont liées à une économie verte et durable. Qu'aujourd'hui, il est temps de se lancer pour changer la donne et changer nos modèles de société et de consommation. On peut créer de l'emploi. Donc, je suis contente d'avoir réussi à créer de l'emploi pour des personnes vulnérables dans mon pays à travers mon entreprise sociale. Je sais que nombreux sont ceux qui défendent ce modèle d'économie sociale et solidaire. Donc, on pourrait porter plein de messages aujourd'hui pour cette journée. Mon message qui est très personnel, c'est vraiment de lancer des initiatives, de ne pas avoir peur de se lancer et que on peut très bien créer des opportunités économiques, changer la donne chez nous et de manière positive, et que cette pandémie est justement une occasion pour nous de repenser en fait notre modèle économique. Et donc, il faut qu'on pense à un modèle qui soit plus respectueux des personnes, plus inclusives, qui permettent à des femmes aussi, à des personnes en situation de handicap, à des personnes qui sont discriminées, de faire partie pleinement de la société et de pouvoir gagner en autonomisation. Donc ça, c'est vraiment mon appel. Donc, investissez dans l'économie sociale et solidaire. Si vous ne voulez pas être entrepreneur, vous pouvez soutenir des entrepreneurs, acheter leurs
Tout à
produits,
fait.
soutenir l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat vert, et puis restons optimistes.
Marie-Christina Colo, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être?
J'avais un message pour les jeunes. Le dernier message que j'aurais, c'est ce message vraiment pour tous les partenaires qui sont techniques et financiers en cette période de pandémie. C'est vraiment par rapport à cette campagne sur laquelle nous travaillons avec Civicus, c'est vraiment de pouvoir considérer ces mouvements, ces communautés de base qui aujourd'hui se battent pour survivre, parce que bon nombre des financements sont aujourd'hui orientés sur le secteur de la santé. Et donc, mon appel, c'est aussi pour considérer des modes plus flexibles pour ces organisations, un soutien, de ne pas les oublier, de ne pas oublier ces activistes qui luttent au quotidien et qui parfois dans leur pays voient leur liberté d'expression réprimée, qui parfois dans leur pays sont encore plus limités à cause des mesures sanitaires pour s'organiser, pour se mobiliser. Donc, ça sera un dernier appel pour tous ces partenaires qui pourraient éventuellement regarder notre vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre campagne, n'hésitez pas à soutenir, peu importe dans quel pays vous êtes, n'hésitez pas à soutenir ces communautés qui tentent de survivre aujourd'hui.
Marie-Christina Colo, merci beaucoup pour cette interview.
Très bien, à très bientôt.
À très
Prenez soin de
bientôt.
vous.